Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et comme tous les soirs, on commence avec le journal complet d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi commence avec peut-être l'énergie de demain.
Transformer la boue en or, ou plutôt en énergie du futur, Marseille a inauguré aujourd'hui la plus grande usine de biométhane de France. La ministre Agnès Buzyn, auprès des familles des pensionnaires de l'EHPAD de Lerm, près de Toulouse, endeuillée parce qu'il ressemble à une intoxication alimentaire. Tous réclament de savoir ce qui s'est passé. Le vol égyptaire Paris-Le Caire n'aurait jamais dû décoller, dit un rapport aujourd'hui, 3 ans après le crash de l'appareil qui a coûté la vie à 66 personnes. Grand hommage pour une immense cinéaste, Agnès Varda. Des centaines de professionnels et d'anonymes ont suivi l'hommage aujourd'hui de la Cinémathèque au cimetière du Montparnasse où elle rejoint Jacques Demy. Et ça se rafraîchit, c'est plus agité. La météo à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, en Turquie, ce soir, Erdogan conteste les résultats des élections municipales à Istanbul, sans doute aussi parce qu'il est vexé de cette claque qu'on analysera ensemble dans un instant. Nous sommes aussi en Jordanie avec Aurélien Colli. Et puis 19h20, le téléphone sonne. La patience des Européens a des limites, celle des Anglais aussi. Il va falloir que Theresa May soit très concrète, avance très très bien ses cartes au sommet de la semaine prochaine parce que le Brexit dure, le no deal, on y va tout droit. Essayons de comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi? Comment ça se passe dans l'impôt d'un Anglais qui vit ici chez nous? Qu'est-ce qui se passe réellement si les Anglais s'en vont? Qu'est-ce que vous avez compris, vous, sur tout ce processus interminable? 01 45 24 7000. C'est donc la plus grande usine de biométhane de France, inaugurée aujourd'hui à Marseille.
Le biométhane peut être l'énergie du futur. À partir des boues d'épuration, on va fabriquer du biogaz et alimenter en énergie des milliers de foyers. Et même, en guise de carburant, les transports en commun. Isabelle Dor s'est rendue sur le site du groupe Suez, situé à 2 pas de la somptueuse et très protégée Calanque de Sormiou.
C'est dans le cadre somptueux du parc national des Calanques que se niche l'unité de production de biométhane, un enchevêtrement de tuyaux et de citernes où les déchets se transforment en énergie propre. Hervé Madiec, le directeur Suez Eau de la région Sud.
Ici, vous êtes au milieu d'un process qui permet de traiter les gaz produits par la station d'épuration. C'est les eaux usées des particuliers, des industries. On sépare l'eau de la pollution et la pollution est donc traitée ici. Et l'eau est rejetée en mer. La pollution, on la met dans des grands ouvrages qui permettent de fermenter cette pollution, cette boue. En fermentant, nous fabriquons donc des gaz carbonique, gaz sulfuré et du méthane qui en fait ressemble à du gaz de ville.
Et qui sert aussi de carburant pour les bus, souligne Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
C'est un des outils supplémentaires qui permettent de diversifier l'offre énergétique et essayer d'avoir la vision sur 2050 de zéro carbone. La méthanisation permet de mettre en place 150 bus qui vont rouler de façon très concrète et avoir 95% de particules fines en moins.
Actuellement, ce site alimente 2500 foyers. Il en chauffera 3200 à terme. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
L'Assemblée se met à l'heure du grand débat aujourd'hui et demain. La transition écologique, la fiscalité, la démocratie et les services publics au cœur des discussions organisées partout en France depuis 2 mois vont être discutées donc au Palais Bourbon. Mascarade et gain de temps pour l'exécutif, dénoncent les oppositions. La restitution des contributions des Français est prévue lundi prochain. Plus propre aussi les transports, plus efficaces pour répondre aux fractures sociale et territoriale, dit le gouvernement. C'est l'enjeu de la loi d'orientation des mobilités. Une réponse aux gilets jaunes. Le Sénat vient de l'adopter avec la part belle faite au vélo. Jusqu'à 400 euros remboursés aux salariés qui viennent ainsi au travail dans les entreprises qu'ils souhaitent. Maxime Deps, la LOM, prévoit aussi l'ouverture à la concurrence des bus et du métro à Paris. Terminer le monopole de la RATP. Pas du goût de tout le monde, Maxime.
Les célèbres bus verts et leur monopole dans la capitale s'en sera fini au 1er janvier 2025. Comme l'y oblige l'Europe, Paris va devoir s'ouvrir au privé. Pas du goût d'Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat.
Ce ne peut pas être simplement l'exigence bruxelloise qui fait qu'on vend les bijoux de famille.
Car si cette sénatrice a l'impression, comme elle dit, de vendre les bijoux de famille, même de les brader, c'est que tout ça, selon elle, se fait un peu n'importe comment et surtout à la hâte.
Avec cet éclatement en une multitude d'opérateurs privés, que vont devenir les garanties qu'ont aujourd'hui les salariés de la RATP? On n'en sait pas grand-chose. Plutôt qu'un sac à dos social, c'est un parachute percé qu'on est en train de proposer à des milliers de salariés de la RATP.
Insuffisantes, les mesures instaurées laissent également sur leur faim la CGT. Alors certes, il manque des choses encore, les indemnités pour les salariés de la RATP qui refuseraient d'être transférés chez un opérateur privé. Mais pour le reste, Didier Mandelli, sénateur LR et rapporteur du texte.
On verra quel texte sortira de l'Assemblée, mais en tout cas celui qui était transmis par le Sénat prend en compte, je l'estime en tout cas, l'ensemble des aspirations des différents partenaires et acteurs.
Les acteurs qui ont d'ailleurs récemment changé de couleur, les réformistes de l'UNSA aux dernières élections ont ravi à la CGT la place de premier syndicat à la RATP, ce qui pourrait aider à mieux faire passer la réforme.
Et le projet part maintenant à l'Assemblée nationale pour une adoption définitive souhaitée en juillet.
Une série de morts tellement inédite que la ministre s'est rendue à l'EHPAD de Lerme aujourd'hui près de Toulouse.
Là où 5 résidents ont succombé à ce qui ressemble à une intoxication alimentaire. L'enquête devra confirmer les circonstances. Aujourd'hui, 12 autres personnes âgées sont encore hospitalisées. Des familles portent plainte contre la Chêneraie, cet établissement privé, et elles attendent surtout des réponses que la ministre n'a pas forcément pu leur apporter aujourd'hui, Stéphanie Glaisis.
2 heures chrono à Lerme près de Toulouse, pas plus pour la ministre de la Santé, venue pour apporter, dit-elle, sa solidarité aux familles de victimes, dont certaines n'avaient même pas été prévenues de sa venue. C'est le cas d'Emmanuel Courvoyer qui a perdu sa mère.
Les familles n'ont pas été conviées, non ? Moi j'en pense que c'est maladroit de sa part. On n'a vu personne de l'ARS et on n'a pas pu rencontrer la direction de l'EHPAD. La gestion de la crise par l'EHPAD n'était pas satisfaisante. On n'a pas eu les réponses qu'on attendait sur le déroulement de la soirée. Pouvoir rencontrer les personnes qui étaient avec les victimes, savoir comment ça s'était passé. Et aujourd'hui, on reste dans le flou. Et puis, ce qu'on attend aussi, c'est peut-être que des actions soient prises pour pas que ça se reproduise.
Interrogée sur les contrôles sanitaires des EHPAD, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, précise qu'ils sont déjà très stricts.
Le contrôle sanitaire a lieu régulièrement dans les cuisines des EHPAD. Ils font l'objet de visites parfois inopinées. Il y a des procédures pour la production de l'alimentation dans les EHPAD qui sont très strictes. Tous les EHPAD, publics comme privés, doivent se conformer à ces recommandations. Voilà, l'enquête nous dira si ces procédures ont été suivies comme elles le devaient.
La ministre a indiqué que toutes les leçons de ce drame seraient tirées, notamment pour amender la loi Grand Âge actuellement en préparation. Lerme, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Les réseaux sociaux peuvent-ils sauver l'hôpital ? En tout cas, les infirmières de Valence font un carton, plus de 800 000 vues pour la chanson qu'elles viennent d'enregistrer, relayée par la CGT de l'hôpital. Le titre, La colère dans le cathéter, où elles dénoncent les suppressions de postes, la fermeture de lits et le manque de moyens. Les réseaux sociaux, caisse de résonance et nouveau signal d'alarme aussi contre toutes les haines. Une enquête est ouverte à Paris pour une agression filmée, devenue virale sur le web. Une agression transphobe. Dimanche, place de la République. Les images montrent une jeune femme transgenre prise à partie à la sortie du métro par des manifestants. Certains arborant des drapeaux algériens. L'un d'eux lui crache au visage. Des coups fusent. Bonsoir Béatrice Duguet.
Bonsoir.
Alors des agents de la RATP interviennent quand même pour mettre la jeune femme à l'abri.
Et avant eux, quelques-uns des manifestants aussi qui tentent de s'interposer ou peut-être de faire prendre un autre chemin à la victime. En tout cas, le groupe de protection et de sécurisation des réseaux de la RATP indique avoir interpellé le principal agresseur et avoir relevé le nom de la victime. Stop Homophobie explique que la vidéo lui a été adressée via la messagerie électronique dédiée aux victimes et qu'une fois rendue publique sur ses réseaux sociaux, eh bien Julia a à son tour contacté l'association. Lies Alouane a échangé avec elle.
Après son agression, elle était très choquée, mais elle reste combative. Elle reste combative parce que voilà, elle garde toujours la tête haute. Elle m'a parlé de son sentiment. Comme quoi, elle voulait se battre et, afin que les choses évoluent.
Julia a donc décidé de porter plainte, ce que beaucoup d'hommes et de femmes transgenres ne font pas. Et quand elles le font, les plaintes sont souvent classées sans suite, selon Stop Homophobie. Cette affaire, en tout cas, fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, évidemment. À vomir, c'est la mention qui revient souvent. Côté politique, entre autres, indignée par cette agression transphobe que je condamne, a réagi Anne Hidalgo, la maire de Paris. Les LGBT-phobies ne sont pas des opinions, martèle la secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations. Marlène Schiappa, enquête ouverte par le parquet de Paris.
Merci beaucoup Béatrice Duguet. Le gouvernement a-t-il été pris à son propre piège avec sa loi sur les infox, les fausses nouvelles ? Twitter vient de refuser une campagne du ministère de l'Intérieur dont le but était d'inciter à aller voter aux élections européennes. Le réseau social affirme ne pas vouloir prendre le risque d'enfreindre la nouvelle loi qui impose de fournir toutes les informations sur les publicités politiques.
Il est 18h presque 10 sur France Inter. L'Airbus d'Égyptaire aurait-il dû rester cloué au sol en 2016.
L'Airbus A320 qui devait relier Paris au Caire s'était abîmé en Méditerranée. Bilan, 66 morts, dont 15 Français. Delphine Evenou, vous nous avez rejoint. Le rapport commandé par les 3 juges d'instruction en charge de l'enquête en France est accablant à propos de la maintenance de l'avion, c'est ça ?
Oui, alors disons-le tout de suite Amélie, ce rapport de maintenance commandé par les juges d'instruction chargés de l'enquête en France ne permet pas d'établir les causes du crash, mais il pointe donc les défaillances de l'appareil, problème électrique, problème sur une valve moteur, fumée dans les toilettes, défaillance de l'avion et dans la gestion par la compagnie. Ce rapport, les familles des victimes l'ont lu avec effarement. Maître Sébastien Buzy, leur avocat.
Les problèmes sur cet appareil étaient multiples. Certains étaient réguliers. On voit apparaître de manière assez répétitive un certain nombre de messages d'alerte et d'alarme concernant certains systèmes de l'appareil. Ces systèmes auraient dû faire l'objet d'une vérification et d'une réparation. Égyptair a souhaité continuer à faire voler cet appareil et malheureusement avec les conséquences que l'on connaît.
Dans leur conclusion, les experts expliquent en effet que l'avion aurait dû être vérifié lors des 4 précédents vols, qu'il n'aurait déjà pas dû quitter le Caire pour rejoindre Paris lors du trajet aller. Si l'avion s'était écrasé sur une ville et non dans la mer, les autorités auraient pris des mesures drastiques et immédiates contre Égyptair, s'insurgent les familles des victimes qui devraient connaître la vérité dans un an environ. Une nouvelle expertise est menée sur les causes cette fois de ce crash.
Merci beaucoup Delphine. Les chocs climatiques responsables des crises alimentaires, un rapport mondial affirme que ces dérèglements de la nature seront, avec les conflits cette année encore, les premières causes des famines dans le monde. L'an dernier, plus de 113 millions de personnes se sont retrouvées menacées par des pénuries de nourriture dans une cinquantaine de pays, à commencer par le Yémen, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, l'Éthiopie ou la Syrie. L'Afrique reste le continent le plus vulnérable à ces crises alimentaires. Là, c'est un combat sans règles, ou presque. Le MMA s'apprête à débarquer en France. Ce sport ultra-violent, combat où quasi tous les coups sont permis. Dans un octogone, une cage grillagée fait de nombreux adeptes à travers le monde. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, ouvre la porte à sa légalisation chez nous, à condition qu'une fédération déjà existante accueille cette discipline extrême. Des visages tristes dans son village parisien. Dernier adieu à Agnès Varda, aujourd'hui, de toute sa famille de cinéma. Environ 650 acteurs, réalisateurs, ministres, dirigeants d'institutions se sont d'abord réunis ce matin à la Cinémathèque française à Paris pour rendre hommage donc à la pionnière de la nouvelle vague. Cet après-midi au cimetière du Montparnasse pour les obsèques, ils ont été rejoints, Jacqueline Bétrose, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Par vous, vous y étiez, et par des anonymes, admirateurs de cette voix singulière qui vient de s'éteindre.
Oui, on peut dire que cet au revoir fut toute la journée plein d'émotions, mais aussi de rire à l'image même d'Agnès Varda, à la Cinémathèque où 3 salles ont dû être ouvertes. Il y a eu de la tendresse avec JR évoquant l'amitié et les chicailleries entre Agnès Varda et lui lors du tournage de Visage Village. Un moment bouleversant avec Sandrine Bonner, disant tout son amour à Agnès et ce qu'elle lui devait.
Quand je t'ai rencontrée, j'étais une fleur, peut-être une fleur d'une saison. Et puis après ce beau film fait ensemble, je suis devenue un arbre, grâce à toi. Grâce à toi, je me suis enracinée dans ce métier. Grâce à toi, j'ai pu durer.
Et il y a eu la voix tremblante d'émotion de Catherine Deneuve, lisant un poème de Rimbaud.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers picotés par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma
tête. Mais c'est Agnès Varda elle-même, sur l'écran, qui le plus souvent a fait rire, dansant et assénant quelques vérités féministes. Et puis au cimetière, où elle a rejoint Jacques Demy, le grand amour de sa vie, le public en majorité féminin gardera d'elle une image lumineuse comme Mila.
Pour moi, elle représentait vraiment un modèle de femme, extrêmement libre bien sûr, mais extrêmement créative et surtout cette espèce de force de joie quotidienne qui est pour nous vraiment un exemple.
Et puis les deux cérémonies se sont terminées sous un tonnerre d'applaudissements pour la reconnaissance et la tendresse.
Merci beaucoup Jacqueline Pétrose. Hommage également à Agnès Varda, retrouvée sur notre site franceinter.fr. Terminons par un baptême. Chez nous, cela fait penser plutôt à de la charcuterie.
Mais c'est ce que j'allais dire, je n'aurais pas
osé. En Allemagne, c'est un hommage au club de foot. L'Ourson Polaire du zoo de Berlin vient d'être baptisé, donc Hertha, voilà. Du nom de l'équipe de la capitale allemande qui parraine l'animal. L'Ourson est né le 1er décembre et a fait récemment sa première apparition au Tierpark, déjà adopté tel une star locale. Bienvenue, willkommen Hertha.
Voilà. Et bienvenue aussi dans Un jour dans le monde, Amélie.
Ce soir, on va parler d'un autodafé moderne en Pologne. Des curés brûlent Harry Potter. Les avions du gouvernement allemand n'en finissent plus de tomber en panne. Et puis la révolte des maillots de bain en Russie en soutien à une prof qui adore la natation en eau froide, comme vous Fabienne.
Oui, absolument, on verra tout ça autour de 18h37. Ce soir, nous allons en Turquie, chez un Erdogan groggy après sa défaite au municipal. D'ailleurs, il conteste les résultats de la très symbolique Istanbul. Nous allons aussi en Jordanie avec Aurélien Colli. Et puis le téléphone sonne. Je vous le remets en tête. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui se passe en Grande-Bretagne, de ce Brexit
Brexit qui n'en finit pas, de ces votes à répétition et de ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire apparemment un Brexit dur et un no deal. Ça pourrait nous faire rire ce côté Monty Python, les Anglais ne rigolent pas du tout, nous non plus d'ailleurs. On va essayer de tout remettre dans l'ordre et comprendre ce qui va se passer exactement le 12 avril. Ça se passe au 01 45 24 7000.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
La météo avec Sébastien, alias, encore de la pluie et des averses prévues demain, Sébastien.
Oui, ce soir et cette nuit, la perturbation pluvieuse va continuer de s'enfoncer sur le pays pour s'étendre demain sur les régions de l'Est. Entre la Franche-Comté et la vallée du Rhône, les pluies seront localement soutenues, notamment sur les contreforts du relief. Quelques coups de tonnerre seront aussi possibles et la limite pluie-neige va progressivement s'abaisser sous les 1000 mètres d'altitude. Plus à l'ouest, le temps sera plus changeant. Les nuages resteront nettement prédominants et s'accompagneront régulièrement d'averses tout au long de la journée. Les averses seront plus nombreuses au sud de la Loire et sur le nord-ouest avec localement du grésil et des orages. La Corse sera un peu à l'écart avec des éclaircies plus présentes sur le sud alors que le nord verra quand même quelques averses.
Et sinon, côté température, nouvelle baisse demain.
Oui, de l'air frais s'engouffre dans le sillage de cette perturbation et le rafraîchissement des températures va se poursuivre, les maximales chutant et passant sous les valeurs de saison. À Strasbourg, on attend 11 degrés demain après-midi alors qu'il fait actuellement plus de 22 degrés. On attend à peine 7 degrés à Caen et à Aurillac, 9 degrés pour Rennes, Dijon, Metz et La Rochelle, 10 degrés à Paris, Grenoble et Biarritz, 12 pour Toulouse et Clermont-Ferrand et 13 à Montpellier. Température un peu plus douce en Corse et sur la Côte d'Azur avec 16 degrés à Cannes et 19 degrés encore pour Porto Vecchio.